Pour essayer d'entrer en contact avec la divinité, les hommes ont mis en place toutes sortes de rites qui parfois sont d'une grande complexité et demandent une quantité de ressources considérable. Mais pour ceux qui ont choisi de placer leur foi en Jésus-Christ, Dieu descend de son trône et vient habiter au milieu d'eux. Je continue à lire dans le chapitre 4 de la première épître de Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Versets 12 et 13. Le Dieu, que personne ne peut voir, s'est dévoilé en Jésus son Fils. Dans son évangile, Jean écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » En effet, Jésus a manifesté les principaux attributs de Dieu comme son amour, sa compassion, sa sainteté et sa justice. En écoutant l'enseignement de Jésus, on apprend à connaître Dieu, on sait ce qu'il pense et ce qu'il considère important dans nos vies. Il nous dit par exemple que la poursuite de l'argent et des plaisirs sont des fausses pistes qui mènent nulle part sinon à la perdition. Par contre, la recherche de la droiture et de la justice, c'est-à-dire la pratique de la compassion envers tous les hommes et surtout envers les frères et sœurs dans la foi, sont des valeurs qui sont chères à Dieu. On sait aussi comment Dieu réagit devant les souffrances humaines et devant la mort, puisque Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. On connaît son attitude face aux enfants parce que Jésus les a pris dans ses bras. Cependant, comme Jésus était dans un corps humain, nul n'a vu sa gloire, sauf Pierre, Jacques et Jean, au moment de sa transfiguration, où il est dit que son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Mais, même à ce moment-là, les disciples n'ont vu qu'une gloire partielle et contenue, sinon, ils auraient été terrassés sur place. Il y a presque 2000 ans, Dieu a révélé son amour en Jésus par sa vie et par son sacrifice sur la croix. Mais comme il n'est plus visiblement présent pour révéler l'amour de Dieu, il a recours à ses fidèles et c'est leur amour les uns pour les autres et pour les hommes en général qui doit manifester l'amour de Dieu. Le discours de Jean sur l'amour le conduit à dire « Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous, c'est par son esprit qu'il nous a donné. » Parce qu'aujourd'hui, Dieu se révèle essentiellement par l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans les croyants qui, grâce à lui, entrent en relation avec Dieu et qui ont une vie transformée. Le dernier dirigeant chinois à dire qu'il était chrétien fut Chiang Kai-shek. L'était-il vraiment? Nul ne le sait. Par contre, sa femme était vraiment chrétienne. Dans la première moitié du XXe siècle, un commentateur biblique raconte l'histoire suivante. Un jour, Chiang Kai-shek est allé voir sa femme et lui a dit « Je ne peux pas comprendre ces chrétiens ». Ils ont été traités d'une manière abominable. On leur a volé leurs biens, on les a battus, beaucoup ont été mis à mort, on les a persécutés sans pitié, et pourtant, jamais on en voit un qui cherche à se venger. Et chaque fois qu'ils peuvent être d'une quelconque aide au peuple chinois, ils sont prêts à le faire. Alors vraiment, je ne les comprends pas. « Eh bien, répondit sa femme, ce que tu vois est l'essence même du christianisme. » Ils agissent ainsi parce qu'ils sont chrétiens. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit dans leur vie que les croyants comprennent l'amour de Dieu et désirent le partager avec leurs contemporains. Cet amour les pousse à aimer leurs frères, mais aussi leurs ennemis. Jean n'est pas le seul auteur sacré à parler de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Quand un croyant obéit aux sollicitations de sa nouvelle nature, il aime spontanément. Ainsi, si les membres d'un couple chrétien se soumettent à Jésus-Christ, ils auront en eux l'amour de Dieu qui est bien plus fort que l'amour conjugal, ce qui fait qu'ils ne s'engageront pas dans des luttes pour le pouvoir et des discussions stériles pour s'assurer que la femme est bien soumise à son mari et que ce dernier est bien le maître chez lui. L'apôtre Paul écrit « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Si le mari aime sa femme au point d'être prêt à donner sa vie pour elle, il ne sera pas difficile à l'épouse de respecter son mari et d'accepter ses décisions concernant la famille. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir la flamme de l'amour conjugal, surtout par les temps qui courent, où les tentations sont partout présentes. Il faut profiter de toutes les opportunités offertes par le calendrier pour raviver la flamme. La présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu se manifeste par son amour à l'égard des autres et par sa foi inébranlable en Jésus-Christ. Mais quelqu'un dira « Tu as bien de la chance d'avoir la foi ». Eh bien, c'est vrai, la foi n'est pas donnée à tout le monde. Étant donné que le non-croyant est spirituellement mort, il lui est impossible de venir à Dieu de sa propre volonté. La foi qui sauve n'est possible que parce que Dieu l'accorde. L'apôtre Jean a vécu aux côtés de Jésus pendant 3 ans, ce qui a confirmé sa foi, et il en rend témoignage disant « Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin ». Le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Verset 14. Jean a pu croire que le Père avait envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde parce que le Saint-Esprit a ouvert ses yeux sur la personne du Christ. Aussi étonnant que cela puisse paraître, fréquenter Jésus pendant 3 ans jour et nuit ne suffisait pas pour croire en lui. La preuve est Judas qui, parce qu'il avait endurci son cœur, était insensible à tout ce qu'il voyait et entendait de la part du Seigneur. Pour lui, seul l'argent comptait. En effet, lorsqu'une femme nommée Marie répandit du nard pur de parfum de très grand prix sur les pieds de Jésus, l'apôtre Jean rapporte que Judas a dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Fin de citation. J'avoue que je ne comprends pas comment Judas a pu agir ainsi, mais il l'a fait. Je continue le texte. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 15. Or, demeurer en Dieu, c'est connaître Dieu et posséder la vie éternelle. Oui, mais voilà. Si vous faites un sondage et demandez à des passants, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Presque tous ceux qui sont de tradition chrétienne répondront oui, parce que pour eux, cette question ne veut rien dire. Mais au 1er siècle, dans un contexte ultra-païen auquel s'ajoutait le culte de l'empereur, reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu pouvait signifier l'échafaud. Aujourd'hui, les gens ne font pas le lien entre l'homme Jésus et la seconde personne de la Trinité. Quant à ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais lui ajoutent la grande compagnie de ceux que des hommes ont déclarés saints, il dilue la valeur du Fils de Dieu et on est en droit de se demander s'ils répondent à la définition que fait Jean de ceux en qui Dieu demeure. À chacun de répondre pour lui-même. Au 1er siècle, celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu prend implicitement position pour lui, c'est-à-dire l'accepte comme son maître. Il croit aussi qu'il est mort sur la croix pour expier le péché et qu'il est ressuscité. Or, l'apôtre Paul déclare « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je continue le texte. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 16. L'idée de croire en l'amour de Dieu n'apparaît pas ailleurs dans le Nouveau Testament. Il faut dire que l'amour de Dieu ne saute pas aux yeux des non-croyants parce qu'ils sont incrustés dans ce monde. Seul l'homme de foi peut le discerner. Jean reprend ici la déclaration sublime qu'il a déjà faite. Dieu est amour et en déduit que demeurer dans l'amour, c'est demeurer en Dieu. En d'autres mots, celui qui aime autrui et ses frères et sœurs dans la foi est en communion avec Dieu parce que cet amour lui vient du Saint-Esprit. Toutes les affirmations, confesser Jésus comme fils de Dieu, croire en Jésus, lui obéir, aimer Dieu et aimer les frères, connaître Dieu, demeurer en lui ou dans l'amour, avoir la vie éternelle et être sauvé, sont étroitement liées et ne peuvent être dissociées l'une de l'autre. Je continue le texte. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, car ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous dans le monde. Verset 17. Ici apparaît le jour du jugement qu'il ne faut jamais perdre de vue parce que nous devons tous y passer. Cependant, il n'est pas question d'une décision de la justice suprême qui déterminerait la destinée éternelle du croyant. Celui-ci n'est pas concerné par ce jugement. Jésus a dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède, dès à présent, la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Et l'apôtre Paul écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Cela étant bien établi, il faut quand même garder à l'esprit que la vie du croyant sur terre sera testée, évaluée, scrutée et décortiquée devant le tribunal du Christ, un tribunal réservé aux croyants. Mais même en ce jour solennel, celui qui se tiendra à la barre pourra envisager cette évaluation avec assurance, avec sérénité, parce que l'amour qu'il a eu sur terre envers Dieu et les frères et sœurs dans la foi sera récompensé. C'est la troisième fois que Jean mentionne cette idée d'avoir de l'assurance. La première fois, c'était lié au retour de Jésus quand il reviendra chercher les siens. La seconde fois, c'était en rapport avec une mauvaise conscience, et ici, c'est en vue du jugement de Dieu. Plus loin, il utilisera ce mot une quatrième fois, mais en lien avec la prière. « Ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous dans le monde, » dit Jean. Jésus était dans le monde, il en faisait partie, mais il n'était pas de ce monde, car il désapprouvait ce système qui a Satan pour prince. C'est aussi la situation du croyant fidèle à son Seigneur. Il habite dans ce monde, il a un toit sur la tête, et s'il est dans un pays industrialisé, il a des possessions tout autour du ventre, au moins une voiture, un téléphone et un ordinateur, des comptes en banque et du bazar plein son grenier ou son garage. C'est vrai, cependant, son cœur et ses affections ne sont pas ici-bas, mais dans les cieux qui est sa vraie patrie. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus a dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Non seulement le croyant et le Christ ne sont pas du monde, mais le Père les traite tous deux de la même manière parce que tous ceux qui ont foi en Jésus ont été revêtus de sa justice et de sa sainteté. En fait, Dieu voit ses enfants au travers de la perfection de son Fils. Je continue le texte. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Verset 18. Les Écritures invitent les croyants à une crainte respectueuse du Seigneur, mais elle n'a aucun point commun avec la peur bleue de l'esclave qui redoute les coups de son maître. L'apôtre Paul écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. » Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Avant d'être un enfant de Dieu, nous passons par quatre phases. Premièrement, nous ne craignons pas Dieu et ne l'aimons pas non plus. Deuxièmement, nous commençons à le craindre, mais nous n'avons pas encore d'amour pour lui. Troisièmement, notre amour pour lui grandit, mais la crainte est encore présente. Quatrièmement, la crainte disparaît et seul demeure l'amour du Christ. À ce stade-là, nous avons une pleine assurance devant Dieu et nous savons avec certitude que nous sommes vraiment ses enfants. Je continue le texte. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Les êtres humains sont naturellement capables d'aimer les membres de leur famille ou leurs amis intimes. Mais Jean parle ici de l'amour-sacrifice dénué de tout égoïsme que possèdent seulement ceux en qui le Saint-Esprit habite et dans le cœur desquels Dieu a répandu son amour. C'est parce que Dieu nous a d'abord aimés et nous a donné son Esprit qu'en retour nous pouvons aimer Dieu, notre prochain et les frères et sœurs dans la foi. L'amour chrétien qui est donné à celui qui en est indigne découle de la nature de celui qui aime et non du mérite de celui qui est aimé. Je continue le texte. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Verset 20. Cette mise en garde est dans le même esprit que les précédentes concernant l'obéissance, la marche dans la lumière, la pratique de la justice, de la générosité et de l'amour en général. Le mot « frère » pourrait être pris au sens générique du prochain, mais Jean l'utilise plutôt pour désigner les croyants. L'amour pour le Dieu invisible ne peut s'exprimer concrètement que par l'amour pour le frère qu'on voit, même s'il vous a fait du mal. C'est en tout cas ce que le mot « haine » dans le texte sous-entend. La réaction normale et humaine est d'haïr ceux qui vous blessent, même si ce sont des croyants comme vous. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres sont inséparables. À combien plus forte raison l'amour pour les frères et sœurs dans la foi? Si nous aimons vraiment Dieu, nous aimerons aussi notre prochain et encore bien davantage les frères dans la foi. Dans un certain sens, il est facile d'aimer Dieu car il est esprit et nous ne pouvons ni le voir ni l'entendre. Tout le monde peut dire « j'aime Dieu ». Ça me fait penser à l'histoire du paralysé qu'on amena à Jésus couché sur un brancard. Matthieu rapporte que Jésus dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». En fait, n'importe qui peut dire « tes péchés sont pardonnés », mais qu'est-ce qui le prouve? Jésus a bien vu le problème et a dit « qu'est-ce qui est le plus facile, dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi ». Et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard.